sans nos blessures du passé, sans nos frustrations du passé, sans nos besoins qui n'ont pas été satisfaits dans le passé, qui nous font élaborer des projets, des ambitions pour le futur. Mais ce n'est pas le futur qui dirige nos vies, c'est notre passé encore. C'est parce que vous avez connu certaines choses dans le passé que vous voulez que dans l'avenir, ça ne se reproduise plus. Mais c'est encore le passé qui est à l'origine. Et le passé est un dictateur terrible. Votre histoire est un dictateur terrible parce que c'est lui en permanence qui est en train de vous conduire, qui est en train de vous diriger, qui est en train de diriger vos comportements, vos réactions. Les gens disent, les scientifiques, vers la fin du XXe siècle, on est arrivé à l'apogée du matérialisme, du monisme, c'est-à-dire il n'y a que tout est matière, il n'y a pas d'esprit. Mais c'est ridicule à dire, puisque un esprit se définit par une force qui s'exerce sur nous sans qu'on puisse la saisir, la mesurer. Eh bien, notre passé est un esprit, n'est-ce pas ? Notre passé est un esprit qui nous dirige. Et que l'on veuille ou non, cet esprit conduit nos vies dans une direction ou une autre. Je le dis très souvent, mais je pense que c'est très important. Nos réactions, à un moment donné, eh bien, se produisent d'une manière spontanée, n'est-ce pas ? Et elles sont issues, elles sont provoquées, elles sont conduites par notre histoire. Et pourquoi vous avez ces réactions mauvaises et vous dites « Oh Seigneur, j'aurais pas dû, mais j'ai pas pu contrôler. » Eh bien, c'est parce que quand vous voulez la contrôler, c'est déjà fait, c'est automatique. Et si c'est automatique, c'est parce que ça a été appris dans le passé. Et vous avez développé, comme moi, comme chacun d'entre nous, on a développé des attitudes. On a développé des réactions qui ont commencé à un moment de notre enfance, à un moment de notre adolescence ou à un moment de notre âge adulte. On a développé des réactions, des façons de voir, des façons de réagir qui sont automatiques, qui sont rapides et qui se produisent avant même qu'on puisse les contrôler, puisque ça met 300 millisecondes pour qu'on en ait conscience et ça s'est produit juste avant ça. Donc que faire ? Eh bien, c'est parce que notre passé dirige nos vies avec toute puissance. Et je ne peux pas faire autrement. Mon passé, je ne peux pas revenir là-dessus. Je ne peux pas dire, voilà, je vais changer, on va recommencer à zéro, n'est-ce pas ? On va changer le passé, on va refaire l'histoire. Combien de gens aimeraient que ce soit le cas ? Si vous interrogez les gens autour de vous et vous leur demandez, est-ce que vous aimeriez avoir la clé pour changer des éléments, pour effacer des éléments du passé ? Ils diraient, oh oui. Oh oui, j'aimerais beaucoup effacer ça dans le passé. Mais c'est pas possible. Donc on est condamné, sans l'intervention de Dieu, on est condamné à être manipulé, à être dirigé par ce dictateur, par cet esprit qui va conduire nos vies et nos réactions jusqu'à la fin. À moins qu'il y ait une rencontre avec celui qui peut dire « je suis ». Celui qui est dans le présent et qui peut faire un miracle qui va changer nos vies. Parce que, en fait, quand nous partons dans une mauvaise direction, n'est-ce pas, quand nous prenons une mauvaise direction, c'est là où nous péchons. C'est là où nous nous détournons de Dieu. C'est là où nous avons raté la cible. Et rater la cible, c'est péché, n'est-ce pas ? Péché, c'est rater la cible. Dès qu'il y a quelque chose qui part dans la mauvaise direction, eh bien, on est déjà en train de pécher. Et on a besoin que le Seigneur vienne dans le présent pour nous orienter vers le Père. Et c'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre de l'Évangile. C'est qu'il vient à notre rencontre, sachant que nous sommes conduits par notre passé. Il vient à notre rencontre dans le présent et il nous tourne vers le Père. De sorte que notre trajectoire de vie, dictée par le passé, dans la mauvaise direction, Parce que c'est impossible de viser juste vers Dieu, n'est-ce pas? Il y en a qui visent presque bien, mais ils ratent de très peu, n'est-ce pas? Ils ont vécu une vie presque parfaite, mais à la fin, ils ont raté. Et vous avez, si comme moi, vous avez déjà eu l'expérience de rater le train, qu'on rate le train à 3 secondes ou qu'on rate le train à 3 heures, eh bien, c'est le même résultat. Vous avez raté le train. Si vous avez raté la cible, vous avez péché. Même si vous êtes passé juste à côté, vous êtes pécheur. Autant que celui qui est allé dans l'autre direction, qui a raté la cible aussi. Il est pécheur. Et le péché, c'est le fait de manquer la cible, de manquer Dieu. Et à cause de notre histoire, à cause des événements de notre histoire, à cause des traumatismes pour certains, à cause des blessures de l'histoire, à cause des réactions mauvaises qui ont commencé à un moment de notre vie auquel on a laissé la place, eh bien notre trajectoire est d'emblée déterminée comme étant de travers. Et cela, c'est même avant qu'on ait commencé quoi que ce soit à faire ou à penser. C'est parce qu'on a été conçu par des parents qui étaient déjà sur la mauvaise trajectoire. Donc il est impossible, une fois que l'on existe, d'atteindre Dieu. Et on a besoin du Sauveur, n'est-ce pas? On a besoin de la rencontre avec Je suis, qui va nous diriger. Le rôle, l'intervention du Seigneur Jésus dans nos vies, c'est de nous tourner vers le Père. Et cette rencontre avec Jésus, c'est cette rencontre avec le Père. C'est là où il nous met sur la direction qu'il faut. Et bien sûr, ça nous arrivera de nous détourner à certains moments, mais le Seigneur est là pour nous ramener vers le Père, de sorte à ce qu'on aille vers Dieu et que notre vie soit épargné de la mort éternelle. Et c'est pour ça que Jésus est le chemin, parce que c'est lui qui à chaque fois nous redirige vers son Père, vers Dieu. Il est le Père, celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui m'a rencontré, qui a rencontré Jésus-Christ, il a rencontré le Père, parce qu'il est sur le chemin du Père, parce qu'il est en train de regarder le Père, il est en train de voir le Père. Et ça, c'est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, mais je suis aussi la vérité. Et c'est tellement merveilleux qu'il ait dit cette parole, parce que c'est là où on a à réfléchir sur la vérité. Vous savez que le terme grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est bien sûr le terme grec pour vérité ou réalité. C'est aletheia. Et aletheia, c'est l'absence d'oubli. Parce que c'est un terme qui vient de la mythologie grecque, selon laquelle lorsque les âmes étaient montées dans les lieux célestes, eh bien elles avaient vu des choses extraordinaires. Et lorsqu'elles revenaient sur terre, elles devaient, c'est pas la Bible, hein, ça c'est la mythologie grecque, on est bien d'accord, mais lorsqu'elles revenaient sur terre, elles devaient se baigner dans le fleuve qui s'appelait l'été, L-E-T-H-E, pour oublier ce qu'elles avaient vu dans les lieux célestes. Et c'est alors seulement qu'elles pouvaient revenir sur terre. Donc, la vérité, qui est utilisée ici, le terme aletheia, ça veut dire ce qui n'est pas l'oubli. Ça veut dire qu'il n'a pas été baigné dans le fleuve de l'oubli. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Ça veut dire, je suis celui qui empêche que vous oubliez. Je suis la représentation de Dieu. Je suis l'image de Dieu sur la terre. De sorte à ce que quand vous me regardez, vous ne pouvez pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier la présence de Dieu. Lorsque l'on rencontre Jésus-Christ, on ne peut pas oublier. Parce qu'il nous transforme à son image, parce qu'il nous rend comme lui et parce qu'il nous fait devenir représentants de Dieu sur la terre. Lui-même regardait le Père, n'est-ce pas? Et il était l'image du Père. Vous lisez ça dans Colossiens chapitre 1, vous lisez ça dans Hébreux chapitre 1. Lisez ces passages. Vous savez que dans Hébreux chapitre 1, il est dit qu'il est le caractère même de Dieu. Il est l'image exacte de Dieu. Parce qu'il est dans la présence de Dieu, parce qu'il est constamment dans la présence de Dieu, Jésus est constamment dans la présence de Dieu, il reflète parfaitement son image. Et la question qui se pose, pour savoir si on a rencontré la vérité, c'est est-ce qu'on est aussi des reflets de son image? Est-ce que si notre vie est parfaitement ce que la représentation du caractère de Dieu? Ah, les gens disent, voilà, j'ai mauvais caractère. Le problème, c'est qu'ils disent, j'ai mauvais caractère. Il faut dire, je suis mauvais caractère. Je suis un mauvais caractère. Pas j'ai un mauvais caractère. Vous savez, les alcooliques disent, ah, j'ai un problème d'alcool. Mais on leur fait dire, aux alcooliques anonymes, on leur fait dire, je suis alcoolique. Parce que c'est totalement différent. Ah, j'ai un problème de colère. J'ai un problème, c'est-à-dire ça m'a été donné par quelqu'un, ce problème de colère. Et je l'ai. Je l'ai chez moi, c'est embêtant. Il faudrait que je m'en débarrasse, mais je l'ai. Au lieu de dire je suis colérique. Parce que Jésus, il nous est dit dans Hébreux 1 qu'il est le caractère même de Dieu. Vous savez que Dieu donc a un caractère. Et ce caractère, c'est Jésus. Et lorsque l'on contemple Dieu, lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on rencontre véritablement le Seigneur, il nous transforme, il doit nous transformer, de sorte à ce que nous venions le caractère même de Dieu. Et c'est là où les choses commencent à changer dans nos réactions. S'il n'y a pas de changement dans nos réactions de vie, s'il n'y a pas de changement dans les choses automatiques, n'est-ce pas, dans les réflexes, dans la façon de réagir à des situations, c'est qu'il n'y a pas de rencontre avec Jésus-Christ. Il n'y a pas eu de rencontre. Les comportements qui changent après, on peut les manipuler. L'espace d'un dimanche matin, vous pouvez réussir à contrôler certains comportements, tous les comportements qui sont conscients, vous pouvez les contrôler. Vous pouvez avoir un grand sourire devant un frère que vous détestez. C'est possible de le faire. Mais ce que vous ne pourrez pas enlever, c'est lorsque vous voyez le visage de ce frère, c'est la réaction à l'intérieur. Ça, vous ne pourrez pas. Parce que ça, c'est automatique. Et c'est dû à votre passé. C'est dû à votre histoire. Ça veut dire que votre histoire, quelque chose qui n'a pas été réglé, quelque chose qui n'a pas été oublié et qui devait être oublié, dans le sens effacé, enlevé. Quelque chose qui est en train de diriger votre vie. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas quelque chose de fatal. Ce n'est pas quelque chose de fini. C'est quelque chose qui nous fait, qui nous pousse vers l'Évangile, qui nous pousse vers Jésus-Christ, qui nous fait dire, Seigneur, il faut que je règle ce problème. Il faut que ça change. Il faut que je puisse te rencontrer. Et là, le Seigneur vient à notre rencontre dans le présent et il nous tourne vers le Père. Il ne nous dit pas, il va falloir changer ça, il va falloir que quand ça t'arrive, tu prends ta respiration, tu essayes de ne pas l'avoir. C'est trop tard, Seigneur, c'est déjà fait avant que j'en aie conscience. C'est automatique. Est-ce que le Seigneur va vous demander de réagir en moins de 300 millisecondes? Je crois que les réponses automatiques arrivent après 50 millisecondes. Il va vous demander de réagir avant les 50 millisecondes pour que ça stoppe. Le Seigneur sait comment vous êtes fait. Il sait que c'est le passé qui dirige vos vies. Mais il faut un miracle. Il faut rencontrer celui qui est l'esprit de « je suis ». Qui va nous tourner vers le Père. C'est pour ça que quand la femme qui avait commis l'adultère, oui, ça paraît évident qu'elle avait été participante, que ce n'est pas seulement qu'elle était victime, mais le Seigneur ne lui a pas dit, bon, écoute, franchement, tu connais la loi. Je vais faire en sorte que tu ne sois pas lapidé, mais franchement, là, il y a vraiment... Non, il lui a dit... Moi non plus, je ne te condamne pas. parce qu'il savait que c'était le passé de cette femme qui l'avait conduit à commettre ce genre de choses terribles. Il savait que c'était son histoire. Il savait que comme tous les êtres humains et comme ceux qui la condamnaient, elle était conduite par son histoire, par son passé. Est-ce que vous allez reprocher à un alcoolique qui a connu l'alcoolisme à la maison depuis qu'il est petit, quand son père ou sa mère tenait dans les bras quand il était bébé, attaché à ce sentiment agréable d'être dans les bras des parents, il y avait l'odeur d'alcool. Lorsque l'alcool a été associé à toute l'enfance, est-ce que vous allez reprocher à cette personne de devenir alcoolique? Est-ce que vous allez dire, voilà, il a un problème d'alcool? Le Seigneur ne justifie pas du tout. Il condamne l'alcoolisme, mais il prend le pécheur par la main et lui dit, regarde le Père. Regarde plus ton passé. Sois plus dirigé par ton passé. Il y a un autre esprit qui veut conduire ta vie. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Père qui veut conduire ta vie. Regarde le Père. Et il tourne notre tête, n'est-ce pas? Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël avait été mordu par les serpents, ils étaient en train de mourir. Et Dieu a dit, voilà, il a dit à Moïse, dresse un poteau et fais un serpent d'airain. Et ceux qui auront les regards fixés vers ce serpent d'airain seront sauvés. Vous connaissez cette histoire. Et donc les gens, je peux imaginer que le mari a pris le visage de sa femme et tourné les yeux parce que la femme était en train de mourir. Elle a tourné la tête vers le serpent pour qu'elle soit guérie. Chacun fait ça auprès de ses enfants. Les enfants ont fait ça auprès de leurs parents. Et Jésus fait ça auprès de nous. Et vous savez, ce serpent qui a été élevé, c'était le symbole dans Jean chapitre 3, vous le connaissez, de Jésus-Christ qui a été élevé sur la croix. Et Jésus va vous tourner vers la croix du calvaire et va dire, regarde-moi, parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Regarde le Père. Et votre vie est changée. Si vous pouvez rentrer chez vous, demandez, Seigneur, montre-moi le Père. Montre-moi Jésus, fais-moi voir Jésus. On a chanté ce chant qui était si, si beau selon moi. Il est si simple, mais si beau. Ouvre nos yeux, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Si c'est le désir de votre cœur le plus cher ce matin de dire, Seigneur, je veux te voir, je veux te rencontrer, pour la première fois peut-être. Il y a des gens qui sont pasteurs ou anciens depuis des années, et qui un jour, pour la première fois de leur vie, découvrent qu'ils ont besoin de voir Jésus. Et combien on a besoin de le voir tous les jours, n'est-ce pas? Pour qu'il nous oriente toujours vers le Père, pour que notre chemin se dirige constamment vers le Père. Vous êtes rongés par la culpabilité. Certains d'entre vous êtes conduits par un événement du passé qui a généré chez vous une culpabilité terrible. Et vous ne pouvez pas oublier. Pourquoi? Parce que c'est une vérité. Et la vérité, c'est l'absence d'oubli. Vous aimeriez trouver ce fleuve de l'oubli pour oublier non pas la présence de Dieu, mais pour oublier ce que vous avez fait. Et c'est impossible. Au plus que vous faites des efforts pour oublier, au plus que vous essayez de vous convaincre que vous allez... que vous êtes pardonné, n'est-ce pas? Il y a des églises où on demande à la personne de dire « Par la foi, je déclare que c'est terminé, que ça n'a plus d'emprise sur moi. » La personne répète « Par la foi, je déclare que... » Et au plus qu'elle met de l'intonation variée dans la phrase, au plus qu'elle fait des gestes, au plus qu'elle a la suggestion qu'il y a eu un effet. Et la personne rentre chez elle, et la culpabilité revient. Si les gens ont peur d'aller voir Jésus, au cas où Jésus va leur dire, ce problème, il n'est pas réglé là. Mais Jésus n'est pas comme ça. Si vous venez avec un cœur repentant en disant « Seigneur, j'ai la culpabilité car j'ai fait quelque chose de grave. Oui, je l'ai fait. Je veux confesser mon péché. Mais je veux voir Jésus maintenant. » Parce que si vous ne voyez pas le Père, si Jésus n'est pas le chemin qui va vous orienter vers le Père, qui va vous conduire là où vous êtes, que vous soyez dans la direction opposée du Père et qui doivent carrément vous tourner comme ça, une révolution totale dans votre vie, ou que vous soyez juste à côté du Père, il a juste besoin de vous tourner un petit peu la tête pour que vous voyez le Père. Vous avez besoin de ce miracle, n'est-ce pas, de Jésus qui est le chemin qui vous mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous avez péché récemment, vous avez besoin que le Seigneur vous oriente vers le Père, sinon vous êtes perdu. C'est pas parce qu'un jour vous avez répondu à un appel en disant « je donne ma vie officiellement et je me fais baptiser » que je suis sauvé maintenant que je vais vers le Père tout droit, sans problème. Ce matin, vous aviez besoin que Jésus, et maintenant, vous avez besoin que Jésus vous tourne vers le Père. Il est dit, je crois que c'est dans Colossiens chapitre 1, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est la radiance du Dieu invisible, dans certaines traductions. C'est que Dieu brille et on ne peut pas le voir, mais Jésus reflète exactement. C'est pour ça probablement que l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 a dit « Aujourd'hui nous voyons au travers d'un miroir, n'est-ce pas ? Mais nous verrons tel qu'il est, nous verrons face à face. » Il reflète l'image du Dieu invisible. Et c'est ça qui est tellement merveilleux qu'on ne peut pas oublier. C'est impossible d'oublier. C'est la vérité. Et la vérité ne s'oublie pas. Le fleuve, l'été, n'est que mythique, il n'existe pas. Quand vous avez vu la présence de Dieu, vous ne pouvez pas l'oublier. Mais vous avez besoin de voir la présence de Dieu constamment. Constamment. Parce que c'est cette présence qui vous transforme. C'est cette présence qui me transforme. Est-ce que ce matin, on n'a pas envie, n'est-ce pas, d'être transformé par Dieu ? Qu'est-ce que Moïse, qui avait connu Dieu d'une manière exceptionnelle, qui avait entendu la voix de Dieu, il avait entendu la voix de Dieu qu'il avait parlé, mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Il l'a entendu réellement. Nous l'avons entendu dans notre cœur. On a été touchés à certains moments de notre existence et on a dit, voilà, le Seigneur m'a parlé. Mais qu'est-ce qui est... Moïse, il a entendu sa voix qui lui parlait réellement, qui l'appelait par son nom. C'est extraordinaire. C'est pas suffisant. Il a dit, Seigneur, je veux te voir. Je veux avoir les yeux tournés vers toi. Je veux voir ton visage. Je veux pas seulement entendre ta voix. Peut-être vous avez entendu la voix de Dieu un jour, mais est-ce que votre désir ce matin, c'est de dire, Seigneur, je veux te voir. Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir. Et ce qui va arriver, c'est que les chaînes de votre vie vont tomber. Les chaînes pour lesquelles vous avez demandé l'imposition des mains, vous avez demandé qu'on prononce des prières très fortes pour que ces chaînes soient brisées. Eh bien, le Seigneur va faire tomber ces chaînes quand vous allez voir la présence de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Si le dimanche matin, on avait des visages rayonnants de la présence de Dieu parce que l'Église est constituée d'hommes et de femmes qui étaient dans la présence de Dieu, qui ont vu Jésus toute la semaine, la présence de Dieu serait là. Il n'y aurait pas besoin de prêcher. La présence de Dieu serait là. Et les gens qui ont la conscience troublée, qui se trouveraient dans votre présence, devraient faire comme les Israélites devaient faire avec Moïse, détourner les yeux. Ils lui ont dit de mettre un voile. Vous seriez obligé de venir le visage voilé au cas où quelqu'un qui n'est pas au Seigneur vient dans l'Église. Au cas où il y a un pharisien qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui fait comme si il connaissait le Seigneur, ne pourra pas voir votre visage, ne pourra pas être dans votre présence, parce que vous rayonnez. Et c'est ça l'Évangile, c'est ça la rencontre avec Jésus-Christ. Oh, combien je me souviens d'un problème dans ma vie, quand j'étais adolescent, qui m'a cruellement tourmenté. J'ai demandé l'imposition des mains par plusieurs, sans qu'il y ait de remède à cela. Jusqu'au jour, je vous l'ai déjà dit, où un prédicateur m'a beaucoup frustré, parce qu'il ne m'a pas imposé les mains quand je lui ai demandé. Mais il a dit, tourne les yeux vers Jésus. Tourne les yeux vers Jésus. Et c'est là la réponse. Tourne les yeux. Tournez les yeux vers Jésus. Regardez Jésus. Passez des moments dans sa présence juste à demander, Seigneur, sois là maintenant. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus, je veux le voir. Je veux qu'il change ma vie. Je veux qu'il me transforme. Je veux qu'il soit le chemin et qu'il devienne la vérité. La vérité, ça veut dire que votre vie est transformée. Vous avez vu, oui, c'est pas votre âme, c'est vous. Vous avez vu les choses célestes, vous avez vu les choses spirituelles dans votre vie qui vous ont marqué. Et c'est aletheia, c'est-à-dire vous ne passez pas par le fleuve de l'oubli. Ça se reflète sur votre vie, sur votre caractère. Vous devenez le caractère de Dieu. On n'est pas dans l'hypocrisie. Jésus disait aux pharisiens hypocrites. Et hypocrite, ça veut dire, un hypocrite, c'était celui qui joue un rôle dans une pièce de théâtre. Ce n'est pas péjoratif. C'est un acteur, maintenant, on dit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis hypocrite. C'était un métier. C'était une fonction. Et c'est donc pour ça que Jésus appelait les pharisiens hypocrites. Parce qu'ils avaient donné l'impression au peuple d'être des gens qui étaient saints. Ils observaient la loi parfaitement. Ils étaient des gens qui jouaient, qui mimaient. Quand l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ », il n'était pas en train de dire « Imitez-moi ». Il était en train de dire « Faites comme moi, regardez à Christ ». Et je suis moi-même l'imitateur de Christ qui regarde au Père. Il n'était pas en train de dire « imitez mes comportements ». Combien de gens essayent de faire ça? Parce qu'ils voient un homme de Dieu, une femme de Dieu agir d'une telle manière. Il faut que je fasse pareil. Ça crée une pression, ça crée une tension, n'est-ce pas? Il faut que. Dès lors que vous dites « il faut que », vous êtes sous la loi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand on regarde vers Jésus, il n'y a pas de « il faut que ». C'est la transformation se fait. C'est ce dont on a besoin. C'est ça la rencontre avec Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et Thomas qui lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, donc comment pouvons-nous savoir le chemin? Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que c'est Jésus qui est le chemin? Vous allez dire, mais Jésus, il est le chemin droit qui me mène vers le Père. Le chemin de Jésus est toujours droit. Parce qu'entre votre présent et le Père, il y a une ligne droite. Et par deux points, il ne passe qu'une seule droite. C'est Jésus-Christ qui vous mène vers le Père. Entre vous maintenant et le Père, il y a une droite. Mais le problème, c'est que vous allez vous détourner. Il va devoir donc créer une autre droite qui vous conduit vers le Père, à partir du point où vous êtes détourné. Mais il vous conduit toujours vers le Père. C'est le chemin. Et vous avez besoin, et on a besoin, j'ai grandement besoin, que Jésus soit mon chemin tous les jours. Il est la vérité parce qu'il nous fait voir les choses célestes et il empêche qu'on les oublie. Il veut qu'on devienne la radiance, l'image de Dieu, l'icône de Dieu, parce que le terme, c'est en grec, c'est le même terme qui donne à icône. La représentation de Dieu sur terre pour que notre caractère, nos réactions dans le présent, soit des réactions, les réactions de Dieu, de Jésus-Christ, qui est le caractère de Dieu. Il est la vie. Et là, il y a quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on a décrit sur le chemin et la vérité, c'est la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? C'est voir Dieu, c'est le connaître. Oui, je te connais, n'est-ce pas? On ne connaît pas quelqu'un vraiment à moins de l'avoir vu, à moins de le voir régulièrement. Au plus que vous voyez quelqu'un, régulièrement, au plus que vous le connaissez. C'est le seul moyen, en tout cas, de bien connaître quelqu'un. les gens qui me voient épisodiquement ne me connaissent pas réellement. La connaissance de quelqu'un, c'est à la maison. La connaissance de quelqu'un, c'est au travail. Et s'il y a une dissociation entre ce qui est vécu à l'église et ce qui est vécu à la maison, il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, il y a la duplicité, il y a l'absence de vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Les seuls qui ont reçu la vie éternelle, c'est ceux qui connaissent Dieu. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit à son Père, dans cette prière extraordinaire, la prière sacerdotale, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Oui, parce que Jésus, c'est notre Dieu. Ce n'est pas Dieu notre Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus. Bien sûr, c'est Dieu notre Dieu. Mais si vous dites aux gens, mon Dieu, c'est Dieu, vous aurez les musulmans qui vous prennent dans les bras, vous aurez certains qui sont très larges aussi, qui ont une... Ah ben oui, on a tous un Dieu, n'est-ce pas? Priez le Dieu, votre Dieu, etc. Non, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Si on vous dit quel est le nom de votre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Il est Dieu, bien sûr, il est le Père, il est le Fils, et il est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est connaître Dieu en connaissant le chemin, en connaissant la vérité, en reflétant le Père, c'est là qu'on commence à vivre. Et on n'est plus sous cette dictature du passé. C'est ça la libération. Si vous, Jésus a dit, vous connaîtrez le Fils et le Fils vous affranchira. Vous connaîtrez quoi et ça vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Aletheia. Vous connaîtrez cette réalité de la présence de Dieu qui vous marque, qui vous façonne, qui vous touche, qui vous transforme. Et vous ne passerez pas par le fleuve de l'oubli parce que vous allez le refléter sur la terre. C'est ça la vérité. Est-ce que tu marches dans la vérité? Si tu veux savoir si tu marches dans la vérité, est-ce que tu reflètes Jésus-Christ qui est la vérité? Est-ce que tu le reflètes sur la terre? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et c'est quand on est libre que l'on commence à vivre, que l'on commence à ne plus être l'esclave du passé, l'esclave des choses qui se sont produites que vous ne pouvez pas pardonner. Mais vous dites, c'est pas ma faute si je ne peux pas pardonner parce que la réaction là, je sais pas, c'est localisé chez moi ici. Vous voyez que je sais ce que ça veut dire ne pas pardonner. C'est localisé à cet endroit-là. Il y a une réaction qui se fait là. Physiologique, je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi c'est là et c'est pas ailleurs, mais chez moi c'est là. Quand j'avais quelque chose contre quelqu'un qui n'était pas réglé et que je voyais la personne, il y a quelque chose qui se passait là. Ça se passe autrement chez vous, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y a... Voilà, mais je suis bizarre aussi, donc ça peut être là et ce n'est pas normal. Voilà, mais il y a quelque chose dans le cœur. Quelque chose qui fait que je ne pouvais pas bénir cette personne. Je ne pouvais pas aimer cette personne pleinement. Vous savez que si vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas votre frère, vous êtes un menteur. C'est Jean qui le dit. Menteur, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne pouvez pas dire, je connais Jésus. Et dire, je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma soeur, je n'aime pas ces gens-là. La vérité et la vie, parce que Jésus nous libère du passé, il nous libère des problèmes qui sont des liens à cause du manque de pardon. Il nous libère de la culpabilité. C'est pas qu'il dit « Oh, c'est pas grave ». Il dit « C'est très grave, mais va et ne pêche plus. Je te condamne pas, je sais pourquoi tu le fais, mais je te pardonne. Mais ne pêche plus maintenant. » Regarde vers le Père. C'est ça. Ne pas pécher, ça veut dire ne dévie pas du Père. Garde les yeux et la direction de ta vie tournée vers le Père. Parce que pécher, le terme grec, c'est rater la cible. C'est être pas sur la trajectoire qui mène au Père. C'est ça la vie, d'être libéré. En fait, c'est la vie, c'est d'être libéré de vous-même. C'est d'être libéré de votre égoïsme. Je veux ça pour moi. Je veux mon bien-être. Je suis... Et si on est comme ça, malheureusement, on est en train de déclarer qu'on est un animal, seulement un animal. Parce que l'animal fonctionne, et c'est normal, c'est biologique, il fonctionne pour l'adaptation et la survie. Si ce n'était pas comme ça, les espèces disparaîtraient autrement, il n'y aurait pas de survie des espèces. Mais l'animal va chercher sa propre, à l'exception des mères quand elles ont des petits. C'est l'exception qui parle, n'est-ce pas, dans la nature. Mais un animal cherche sa survie. Il va chercher à ce que l'autre meure plus tôt pour qu'il puisse vivre. Et le problème, c'est quand les chrétiens sont comme ça. Mais quand on est libéré de soi, et c'est la rencontre avec Jésus-Christ, quand on est libéré de soi, on n'a même plus besoin de chercher sa survie. C'est quand même merveilleux. Vous avez vu les oiseaux, quand ils sont en train de picorer par terre, ils sont tout en train de regarder à droite, à gauche, comme ça. Mais ça doit être stressant. La gazelle en Afrique, elle va boire un peu d'eau, mais elle doit faire attention. Il y a les crocodiles, il y a les lions. Mais c'est une vie de fou. Elle doit chercher sa survie. Et vous êtes là en train d'assurer, est-ce que je dois faire ceci et cela, sinon je vais me trouver en situation difficile, sinon ma réputation va être compromise, sinon mon avenir va être compromis, sinon ma place dans l'Église va être compromise. Il nous libère de nous-mêmes. Et il nous dit d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu, c'est conduire parce qu'on voit par la rencontre avec cette personne de Jésus-Christ, avec Je suis, qui nous permet d'être dans le moment présent, dans la paix, pas influencé par le passé, pas conduit par les ambitions d'avenir, mais qui sont finalement le résultat du passé simplement, mais conduit par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ lui-même, qui a pu dire « Je suis ». Et pour la première fois, vous pourrez dire « Je suis ». Pas « J'étais », pas « Je serai », mais « Je suis ». Je suis libre, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis à Christ. Je suis transformé. Je suis l'image de Dieu sur la terre. Vous ne le direz pas. Mais c'est votre corps qui le dira. C'est votre visage qui le dira. Que Dieu nous aide dans cette rencontre avec Jésus-Christ. Celui qui a vu Jésus-Christ, celui qui a rencontré Jésus-Christ a rencontré le Père. La question ne se pose pas de savoir si après la mort vous serez sauvé. La question se pose de savoir si aujourd'hui vous êtes sauvé. Après la mort, tout sera du passé. Tout sera du passé. Si vous êtes vivant aujourd'hui, il y a la possibilité de faire la rencontre avec le présent, avec celui qui dit « Je suis ». Et c'est maintenant qu'on règle les problèmes. C'est maintenant qu'on vérifie que la trajectoire nous mène vers le Père. Ce n'est pas une fois qu'on est mort. Que Dieu nous parle et nous aide et nous transforme. Amen. On va chanter. Je vais juste prier et on va chanter ce chant si tu veux. Oui. Seigneur, nous voulons venir à toi, Seigneur. Je voudrais tourner mes yeux vers toi, Seigneur, afin que de voir Jésus, pas juste d'entendre sa voix qui me parle, mais de le voir, non pas peut-être avec mes yeux humains, mais de voir Jésus dans sa puissance, dans le fait qu'il reflète le Père, pour que ma vie soit transformée, pour que, Seigneur, tu sois représenté de manière honorable, de manière totale, sur terre. Et que, Seigneur, tu sois le chemin tous les jours, à chaque instant de ma vie. Que tu sois la vérité, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait pas de mime, qu'il n'y ait pas de faire semblant et que tu sois la vie, qu'on soit libéré des liens du passé, libéré, Seigneur, de tout ce qui peut avoir une influence sur nos vies, qui se résume finalement à notre histoire passée. Seigneur, sois vainqueur, sois le libérateur et révèle-toi à nous encore ce matin. Amen. On va terminer avec Libre de nos chaînes. C'est Jésus qui nous libère, n'est-ce pas ?